This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio France Inter, le 18-20.
Le 18-20, ce soir à Bethléem, en Cisjordanie, à la veille, bien sûr, de la traditionnelle messe de Noël, moment important religieusement et économiquement, on va le voir. Et nous serons également en Italie pour un bilan de l'année 2015 et un coup d'œil sur les grands rendez-vous de 2016. À 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier sur l'expression fétiche d'Angela Merkel, Wir schaffen das, nous allons y arriver. Mais avant cela, l'Iran, 6 mois après l'accord de Vienne, énorme espoir de changement, mais toujours l'attente.
Michaël Thébault, un jour dans le monde.
C'était le 14 juillet dernier à Vienne, en Autriche. Après 21 mois de négociations, un accord était enfin conclu entre l'Iran, l'UE, la Grande-Bretagne et les États-Unis, mettant fin à 12 ans de crise sur le programme nucléaire iranien. Immense bouffée d'espoir et d'oxygène pour une nation sous embargo. Mais où en est-on aujourd'hui, 6 mois et demi plus tard? Qu'en est-il de toutes les promesses du président iranien Hassan Rouhani? La sombre page Ahmadinejad est-elle définitivement tournée? Et puis quelle est désormais la place de l'Iran sur la scène internationale? Et bien sûr, dans cette région si tourmentée, divisée et en guerre. Et bien pour en parler, nous sommes avec Azadeh Khan. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Professeur de sociologie à l'université Paris 7, d'origine iranienne. Merci d'être avec nous sur France Inter. Alors avant d'évoquer tous les grands sujets d'actualité dans lesquels l'Iran est impliqué, en première ou en deuxième ligne, on le verra, essayons d'abord, si vous le voulez bien, Azadeh Khan, de comprendre ce qu'est l'Iran aujourd'hui. Si vous deviez nous donner une photo politique, économique et sociale de l'Iran, que diriez-vous ?
Alors, au plan économique, les sanctions n'ont pas encore été levées. La situation économique du pays est très difficile. Le taux de chômage est très élevé. Le pays est au ralenti. Et les entrepreneurs privés, par exemple, qui ont dû mettre les clés sur la porte, sont toujours dans la même situation. Au plan social, il y a beaucoup d'espoir. On voit émerger ou réémerger de nouveau la société civile qui s'active à l'approche des élections législatives de février-mars donc prochain. Au plan politique, le bras de fer continue de plus belle entre les factions dites modérées du régime, disons dirigées par Rouhani aujourd'hui, qui cherchent à faire des alliances ou des rapprochements avec des modérés réformistes, mais aussi des modérés conservateurs, et les durs du régime qui se cramponne au pouvoir à la fois économique et politique, et au milieu, bien évidemment, le clergé conservateur qui souhaite continuer à rester au pouvoir et à leur tête d'ailleurs le guide Khamenei.
Alors donc, justement, on s'arrête, si vous le voulez bien, sur cet aspect purement politique. Qui est réellement au pouvoir aujourd'hui en Iran? Le guide suprême, Ali Khamenei, les gardiens de la révolution, quelle est la marge de manœuvre du président Rouhani?
Écoutez, le président Rouhani a les mêmes marges de manœuvre que les autres présidents au regard de la constitution, donc c'est pas effectivement lui qui dit le dernier mot, mais Rouhani a une personnalité très différente dans la mesure où il est vraiment un homme de sérail, il connaît très bien les rouages politique et religieux et militaire et sécuritaire du régime, puisque il était très proche de l'ayatollah Khomeini, le leader de la révolution. Il est proche de Khamenei, il est proche de Rafsanjani. En même temps,
donc il est proche des conservateurs, modérés ou pas, des réformateurs. Il est où?
Ben voilà, il est conservateur modéré lui-même, si vous voulez, et qui essaie justement d'écarter les ultras. C'est ça son combat politique actuel, écarter les ultras, essayer effectivement de trouver un terrain d'entente avec les modérés de tous les camps afin de pouvoir mettre en place son programme économique, politique, social, etc., culturel aussi, qu'il n'a pas encore pu, bien évidemment, faire. Mais je dirais que la première étape, à savoir l'accord sur le nucléaire, qui était vraiment la priorité de ces priorités, bah c'est déjà fait. Et le Parlement iranien a été contraint, sous la pression même du guide, de voter, d'approuver donc l'accord signé en juillet dernier entre l'Iran et les 5+1, afin aussi de mettre fin aux sanctions internationales.
Alors justement, à la clé de cet accord sur le nucléaire, il y a bien sûr la levée de l'embargo. Est-ce que les taux commencent à se desserrer? Est-ce que l'Iranien au quotidien voit une amélioration ou pas du tout?
Pour le moment, il faut dire pas du tout. Pourquoi? Parce que les sanctions sont là, parce que la corruption généralisée est toujours là, parce que les fondations, les pastarans, toutes sortes de fondations, les ultras et les conservateurs qui dominaient, continuent à dominer l'économie aussi. Donc il n'y a pas tellement d'emplois créés. Donc le taux de chômage, en particulier celui des jeunes, qui quand même constituent la majorité de la population iranienne, reste très élevé, que les Iraniens se débrouillent comme ils le peuvent, que heureusement que la famille iranienne est là et que la famille aide souvent ses enfants. Mais je peux vous dire que, par exemple, il y a les fléaux, bien évidemment, comme la prostitution qui a beaucoup augmenté. Il y a, par exemple, la drogue qui a... Les consommateurs de drogue ont beaucoup augmenté, dont 20% sont des femmes, d'ailleurs. Il y a, par exemple, le nombre des sans-abri a énormément augmenté à Téhéran, par exemple. Et ce sont des phénomènes qu'on connaissait peu avant. Et du fait de la situation économique et sociale du pays, eh bien, on connaît aussi ces problèmes-là qui vont à l'encontre des promesses électorales de Rouhani, mais aussi du régime dans son ensemble.
Est-ce qu'on sent déjà une déception par rapport à toutes ces promesses, et elles ont été nombreuses?
Déception, oui, mais pas encore, dans la mesure où les gens savent, les Iraniens savent que, voilà, première étape, c'était... L'accord de nucléaire, Rouhani l'aura dit que ça sera long. Rouhani l'aura dit même qu'il ne va pas pouvoir redresser l'économie du jour au lendemain. En plus de ça, le prix du pétrole baisse. L'Iran est un pays de producteurs. Mais si vous voulez, après la fin des sanctions, l'espoir est là. L'espoir, c'est la réouverture de l'Iran. C'est l'arrivée des investisseurs étrangers, en particulier occidentaux.
Et ça, on va y venir. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur cette idée qu'on entend dans votre discours de confiscation des pouvoirs économiques. Si jamais demain, je dis demain ou après-demain, on a une levée complète de l'embargo, de cet étau économique, on aura toujours le même problème, confiscation des pouvoirs économiques, non?
On aura moins de problèmes, pourquoi? Parce qu'il va falloir négocier vraiment de façon serrée avec les gardiens de la révolution et avec toutes sortes de fondations qui sont aux mains des conservateurs et proches du guide. Ce sont des fondations qui, par exemple, ne payent pas d'impôts au gouvernement, alors qu'une bonne partie de la richesse nationale est aux mains de ces mêmes fondations. Quand les investisseurs étrangers arrivent, et le guide le sait très bien, les conservateurs aussi, qu'on a absolument besoin de ces investissements. 200 milliards de dollars rien que dans le secteur d'hydrocarbures, en pétrolier et gazier. Donc c'est un pays qui a énormément de potentiel, c'est un pays riche hein, en matières premières aussi. Je pense que cette ouverture, si elle se fait, puisqu'il ne faut pas oublier que les Américains font tout pour bloquer, les républicains américains font tout pour bloquer
plusieurs
toute ouverture.
Plusieurs dizaines de sénateurs ont encore appelé Barack Obama hein, à ne pas lever les sanctions qui pèsent sur l'Iran.
Voilà, et en même temps, avec cette question récente de visa, non seulement pour les binationaux, mais aussi pour les Européens qui seraient allés en Iran. Enfin, tout ça, c'est pour mettre des bâtons dans les roues. Néanmoins, il me semble que c'est un pays où, vous savez, vous avez déjà la force de travail qui est formée. Les entreprises françaises ou européennes et autres savent qu'une fois sur place, ils n'auront vraiment pas besoin de former la population sur place ou la force de travail.
Il y a un niveau universitaire ou en ingénierie qui est très élevé.
Très élevé, en particulier voilà, dans les sciences dites dures, sciences d'ingénieurs, etc. Et donc, le pays est prêt, la population est prête pour cette ouverture-là, qui va forcément à l'encontre des durs du régime, puisque on sait les échanges avec les Occidentaux ouvrira aussi davantage la société iranienne. S'il y aura par exemple une industrie de tourisme, ça va aussi effectuer des changements de toutes sortes. Ça va créer des emplois pour les Iraniens, mais par exemple, ça peut aussi améliorer les contacts, bien sûr, entre l'Iran et les touristes étrangers. Donc,
vous employez le terme d'ouverture. Vous dites les Iraniens et les Iraniennes dans tout cela.
Oui, bien évidemment, les Iraniennes, si vous voulez, avec l'arrivée de Rouhani au pouvoir, un certain nombre d'activités des militantes, en tout cas des droits des femmes, qui avaient été interdites sous l'ancien président Ahmadinejad, ont été levées, c'est-à-dire que ces militantes peuvent de nouveau se rassembler, peuvent de nouveau dire, écrire et proclamer les droits des femmes et essayer, par exemple, de faire pression à l'approche, là encore, des législatives, de demander, par exemple, l'augmentation du nombre des députés femmes au Parlement, les changements des lois discriminatoires au niveau de la Constitution, au niveau du Code civil, au niveau du Code pénal.
Les lignes bougent positivement.
Les lignes bougent positivement, mais il y a toujours la résistance acharnée des conservateurs et des ultras. Et donc l'enjeu principal, si vous voulez, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de savoir si le gouvernement Rouhani parviendra à contenter cette société civile iranienne, les femmes à la tête de cette société civile, ou est-ce qu'on va vers davantage d'écart entre la société civile et le pouvoir.
Une dernière question avant de passer aux grands dossiers internationaux. Selon Amnesty International, les autorités iraniennes auraient exécuté 694 personnes entre le 1er janvier et le 15 juillet 2015. Faites le compte, hein, ça fait 3 personnes exécutées chaque jour.
Tout à fait. Ça, c'est le judiciaire. Disons que le président n'a pas son mot à dire sur le pouvoir judiciaire ni sur le pouvoir législatif. Il y a officiellement...
Qui sont ces personnes exécutées ?
Alors, des personnes exécutées, pour la plupart, sont des trafiquants de drogue. Sont des personnes, disons, des criminels de droit commun, on va dire officiellement. Mais il y a eu aussi quelques cas d'exécution des prisonniers politiques, oui, en particulier kurdes. On sait qu'il y a de plus en plus aussi de blogueurs, de journalistes, de militantes, y compris plusieurs femmes qui sont toujours emprisonnées. Si vous voulez, moins qu'avant, il faut le reconnaître, moins qu'avant. En tout cas, la tendance, même au niveau de la presse, il y a une volonté aussi de la part du gouvernement de faire baisser, sinon cesser, ces arrestations. Et selon les droits qu'ont les Iraniens, selon la constitution de la République islamique même, il y a la liberté d'association, de presse, de parole, à partir du moment où cette liberté ne contredisent pas l'islam ou les fondements islamiques du régime.
Après, dans l'appréciation de ce critère,
après,
tout est là. Il y a une marge. Hein.
Tout est là, c'est-à-dire qui décide et qui décide que l'activité d'un journaliste ou d'une militante des droits des femmes va à l'encontre des préceptes islamiques. D'où l'importance d'avoir quand même des clercs, réformiste qui réinterprète tout ça au profit de la liberté, au profit de la démocratie, plutôt qu'au profit d'une infime minorité d'ultra-conservateurs qui se cramponnent au pouvoir. Moi, je pense que si le pays s'ouvre davantage vers l'Occident, vers en particulier l'Europe, ça peut aider, si vous voulez, à améliorer la situation en ce qui concerne les libertés d'expression, de presse ou d'activité ou d'association.
Alors, les relations avec l'étranger, justement, on y vient. Azedeh Khan, l'Iran est géographiquement, politiquement, culturellement au cœur de plusieurs dossiers ultra sensibles du moment, à commencer évidemment par la Syrie. Quel jeu, quel rôle joue l'Iran dans le dossier syrien, en clair, avec ou sans Bachar? C'est ça l'idée.
Alors, les Iraniens avaient en 2012 proposé de participer à des négociations, enfin à la conférence de Genève à l'époque à propos de la Syrie, laisser entendre qu'ils pouvaient laisser partir Bachar. Vous savez que le gouvernement iranien par la suite a même invité la famille de Bachar al-Assad d'aller s'installer en Iran, ce qui laissait présager le départ probable aussi de Bachar al-Assad. Bien sûr, Bachar n'a pas accepté.
Voilà.
Bachar n'a pas accepté, les Occidentaux n'ont pas joué le jeu, l'Iran n'a pas été invité. Ce qui est positif quand même à l'heure actuelle, c'est qu'enfin, On a invité récemment l'Iran à la conférence de Vienne sur la Syrie. Monsieur Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, est parti aux États-Unis participer à une conférence sur le même thème aux États-Unis. Donc, ce qui fait que l'Iran, ça y est, l'Iran a été réintégré au sein de la communauté internationale.
En tout cas, maintenant, c'est une voix qu'on écoute, qu'on ose écouter.
Absolument, qu'on ose écouter et qu'il fallait écouter il y a déjà 3 ans de ça. Je pense qu'on aurait pu éviter des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de morts en moins en Syrie. Maintenant, l'Iran est très actif sur le site syrien. Il y a plusieurs centaines, sinon milliers, de pastarans, des gardiens de la révolution, qui sont actifs, alors à la fois en tant que conseillers militaires, mais aussi en tant que gardiens des sites religieux chiites en Syrie, y compris aussi en Irak.
Ce qui veut dire qu'ils sont amenés, et c'est ma deuxième question, deuxième dossier ultra sensible, ils sont amenés à lutter contre les djihadistes du groupe État islamique. C'est quoi la position du gouvernement par rapport à ce groupe terroriste ?
L'Iran est le premier pays de la région à s'être mobilisé contre Daesh, contre l'État islamique. Ça, c'est un fait. Pour une simple raison, que les principaux ennemis de Daesh sont les chiites et l'Iran est le premier pays chiite au monde. Donc, c'était pas du tout logique, à mon sens, d'écarter l'Iran d'une coalition contre Daesh, puisque la seule force réelle sur place, c'était l'Iran, qui ne se contente pas de bombarder.
Il y a 6 mois, l'Iran n'était pas encore fréquentable, avec
oui,
de gros guillemets.
Oui, entre guillemets. Alors que dans la région, la seule force qui était réellement en train de se battre aux côtés des Kurdes ou des Syriens ou des Irakiens qu'on a, c'était l'Iran.
On a affaire à un dictateur responsable, oui. En tout cas son régime responsable de la mort de 250 000 oui. personnes en 4 ans. Finalement, ça compte peu, ça ?
Ça compte peu, si ça compte, laissons les Syriens régler leurs problèmes avec Bachar el-Assad. Il ne revient pas aux Français, ni aux Américains, ni aux Iraniens de régler ces problèmes-là. Il faut essayer de stabiliser et comme si le problème principal de l'Occident aujourd'hui, c'est Daesh, et je pense que c'est le cas, n'oublions pas le 13 novembre, n'oublions pas le 1er janvier, n'oublions pas aussi la menace qui pèse sur nous aussi en France. Eh bien, si le premier ennemi, c'est Daesh, il faut écarter cette priorité-là et s'occuper de Bachar el-Assad en deuxième lieu, puisque je pense que si on est d'accord pour dire que finalement c'est cette politique de Bachar qui a quelque part aussi renforcé Daesh, indirectement. Si on affaiblit Daesh, eh bien, on affaiblira aussi Bachar el-Assad. Mais pour le moment, la priorité pour le monde est Daesh et État islamique, et auquel cas, il faut faire de véritables coalition avec l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Une dernière question à Zadeh Kian, par rapport à celui qu'on appelait encore il n'y a pas si longtemps à Téhéran le grand Satan. Est-ce qu'on se dirige, est-ce que c'est possible tout simplement, vers une normalisation des relations avec les États-Unis ?
Les Iraniens le souhaitent, le gouvernement iranien le souhaite, le président, le ministre iranien des Affaires étrangères, les Iraniens aussi. Il y a des sondages en Iran qui montrent que près de 70% des Iraniens souhaitent rétablir les relations avec les États-Unis. Mais malheureusement, il y a des ultras à la fois en Iran et en particulier aux États-Unis, les ultra-conservateurs, les républicains qui font tout justement pour éviter cette amélioration des relations et ce rapprochement. Donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est l'Europe surtout qui doit jouer un rôle prépondérant, non seulement en Iran même, mais dans les conflits régionaux également, puisque les Américains sont empêchés de jouer ce rôle par leurs propres conservateurs.
Azadeh Kian, professeur de sociologie à l'Université Paris 7, merci infiniment d'avoir été avec
merci
nous sur France Inter. À suivre, Bethléem à la veille de Noël, mais d'abord, Hands Up, Kelly Evans.
Seems every time I'm playing, I'm winning. I know it's not only me. And when I'm running, these words keep coming, and all is as it should be. It's such a funny feeling, knowing I'm not hoping. I'm taking everything I see, and I can handle what you're dealing. Keep feeling I'm living through you for me. So, who do you want me to be? Yeah. Who do you want me to love? Tell me.
Hands Up, signé Kelly Evans.
7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et direction maintenant le Proche-Orient, et plus précisément Bethléem, qui, vous le savez, sera demain, comme chaque année, la capitale des catholiques, avec bien sûr la messe de Noël, célébrée en l'église Sainte-Catherine, en présence du patriarche latin et du président de l'autorité palestinienne. Et pour la petite ville de Cisjordanie, c'est aussi un temps fort dans l'économie locale, avec la venue en masse de fidèles. Bonsoir Étienne Monin, en direct de Jérusalem.
Bonsoir.
Alors, temps fort religieux et économique, mais dans un contexte, on le sait, de regain de violence, qui ternit évidemment encore un peu plus le rendez-vous.
Oui, la température de Bethléem, on la ressent finalement dans un hall vide d'établissement, un hôtel, celui de Louis Tawil. On est à deux pas de la place de la Mangeoire, l'épicentre de la ferveur. L'hôtel est complet pour demain grâce aux journalistes, mais sinon, en termes de fréquentation, c'est pire que l'an passé après la guerre de Gaza.
Little bit worse, but it's the same that the business is going down.
C'est un peu moins bien, mais ça veut dire que les affaires continuent de chuter. L'an passé, c'était un peu mieux, mais bon, on arrive à survivre. On a quand même fait une bonne saison qui peut couvrir les pertes des autres mois si ça ne dure pas trop longtemps.
In the case that it will not last long.
Et comment explique-t-on sur place, Étienne, cette désaffection?
C'est la conséquence directe du climat de violence. Charlie Awad, par exemple, est spécialisé dans les pèlerinages religieux. Son agence a traversé plus d'un siècle d'histoire. Ses chiffres sont en baisse depuis 2 ans et cette année, c'est quasiment l'hécatombe.
À la place d'avoir en moyen 10 groupes pour la période de Noël, actuellement nous avons 3 petits groupes. On a eu facilement 3 ou 4 annulations. Les gens avaient peur et c'est l'explication qu'il n'y avait pas de demande, suffisamment de demande. Et même ça dépasse Noël parce qu'on a déjà reçu encore des annulations pour le mois de février et mars. Et
est-ce qu'on peut dire du coup, Étienne, que Bethléem s'enfonce dans une sorte de dépression économique?
Alors Noël n'est pas la période haute des pèlerinages, cette ville n'est pas entièrement tournée vers l'industrie du tourisme religieux, mais beaucoup de familles en sont dépendantes et les investisseurs se sont lancés dans la création de 5 hôtels supplémentaires toujours en cours de construction. On voit donc apparaître une pratique de répartition économique, elle se fait à l'échelle des commerçants dont fait partie Nadim qui vend des objets de culte.
Dans mon magasin, j'ai une centaine d'objets différents et chaque style vient d'une famille différente. Donc je soutiens des centaines de familles et des familles soutiennent d'autres familles. J'achète les objets qui sont faits en olivier chez certaines familles. Les sacs plastiques, les figurines, je les achète ailleurs. Donc on s'aide les uns les autres.
Et le cœur de cette économie du religieux, c'est le bois d'olivier. Il sert pour sculpter les figurines. Il fait vivre 3 métiers différents, mais il est difficile à écouler localement. La construction du mur a compliqué l'accès à Jérusalem. Alors, pour tenir, Jacques Hamann, dans son magasin, serre les effectifs et tourne la tête vers l'étranger.
Maintenant, nous exporter parce que il n'y a pas une autre porte pour nous, seulement exporter. Nous préparer de quoi pour tout le monde. Plus de 60% pour expédier et peut-être 40% pour le magasin ici. Quand vous êtes plus petit, c'est plus meilleur pour vous pour rester ici. Si vous vous grossir, le business finit très vite.
À Bethléem, un magasin, c'est un patrimoine familial pris aujourd'hui entre le contexte régional d'affrontement et la mondialisation avec la diffusion du religieux low-cost en Terre Sainte. Bassem Jackaman est revenu il y a 4 ans de l'étranger pour sauver le magasin familial, avec la crainte aujourd'hui d'échouer.
Il est très difficile d'aider les gens à Bethléem qui travaillent le bois d'olivier, la céramique ou encore les icônes, surtout quand vous avez les produits chinois qui coûtent moins cher. Aujourd'hui, tout le monde veut du pas cher, donc les gens ne font pas attention si c'est chinois ou pas. Certains essayent de faire attention, mais la plupart achètent des cadeaux bon marché, donc ça a un impact, c'est sûr.
Et d'après le responsable de la chambre de commerce de Bethléem, 45 hôtels sont implantés dans la ville. Il y a un peu moins de 230 petites fabriques d'objets et une quarantaine de boutiques de souvenirs, principalement tenues par les chrétiens. Pour intégrer le contexte d'affrontement, cette année, il n'y a pas eu de feu d'artifice lors de l'illumination du sapin près de l'église de la Nativité.
Étienne Monin, en direct de Jérusalem. Merci.
Le 18-20, Michaël Thébault. Un jour dans le monde.
Et comme chaque soir, depuis le début de la semaine, on poursuit notre tour du monde des envoyés spéciaux permanents de France Inter, avec toujours cette même question: que doit-on retenir de l'année écoulée chez vous? Et à quoi peut-on ou doit-on s'attendre en 2016? Et direction ce soir l'Italie. Bonsoir Mathilde Imberti, en direct de Rome.
Bonsoir.
Alors pour commencer Mathilde, on va tenter une petite projection dans le temps. L'Italie qui débute 2016 sur une note positive, la croissance est de retour chez nos voisins italiens.
Oui, la progression du PIB sur 2016 devrait être autour de 1,5% contre 0,3% sur l'année 2015, qui était déjà une bonne année, entre guillemets, dans la mesure où enfin l'Italie a sorti la tête de l'eau après 5 années de récession. Donc la confiance des ménages s'améliore, le chômage baisse, légèrement mais il baisse, et la production de biens manufacturés, secteur clé pour l'Italie, reprend. Alors, l'Italie restant l'Italie, hein, l'économie au noir demeure tout à fait conséquente dans cette ensemble. Elle représente 12% du PIB. Elle est, elle aussi, en croissance. Ce sont tous ces revenus non déclarés, en particulier dans les services à la personne, la restauration, le bâtiment. Cela reste, et ça restera en 2016, un vrai phénomène en Italie, le pays de la débrouille.
Alors, est-ce que ces signes de reprise renforcent le gouvernement de Matteo Renzi?
Oui, la cote de confiance de Matteo Renzi s'est améliorée à partir du mois de novembre. On l'a vu, boostée par les résultats économiques encourageants. Donc la première vertu que reconnaissent les Italiens à Matteo Renzi, c'est la mise en place de réformes en 2015. Il y a eu le Jobs Act, en clair une réforme du marché du travail. Le CDI est devenu la norme, mais les droits s'acquièrent au fil du temps dans l'entreprise pour un salarié. Il y a eu ce cadeau fiscal, 80 euros d'impôts en moins par mois pour les petits revenus. Et puis Renzi a donné en 2015 un coup de dans la fourmilière avec la privatisation des postes italiennes, et 2016 sera l'année de la privatisation des chemins de fer italiens. Ce sera un gros dossier.
Alors impossible hein, évidemment de ne pas évoquer les attentats, Mathilde. L'Italie en 2015 n'en a pas connu, mais elle s'y prépare.
Ah oui, le niveau de sécurité a été relevé partout après les attentats du 13 novembre à Paris. Rome est mise en image dans les clips de propagande de l'organisation État islamique. Et encore, à la mi-décembre, le ministre de la Justice a reçu une lettre très précise de menaces accompagnée de balles de Kalachnikov. Alors cette menace djihadiste, hein, très présente, elle coûte cher à l'Italie, non seulement en termes de mobilisation des forces de l'ordre, mais aussi du point de vue touristique. Après les attentats de Paris, un certain nombre de touristes ont annulé leur voyage à Rome. Et dans le quartier du Vatican, ces jours-ci, malgré le jubilé dont on va parler, qui vient de s'ouvrir et qui est censé drainer des pèlerins, eh bien certains commerçants confient avoir l'impression de vivre sous couvre-feu, tellement cette fin d'année est calme en termes touristiques à Rome.
Alors sur la scène internationale à présent, quelles sont les ambitions, les plans de l'Italie?
Alors l'Italie, premier point, n'interviendra pas en Syrie. C'est très clair et assumé. Matteo Renzi, sollicité comme tous les partenaires européens de la France, a expliqué que l'Italie refusait de participer au bombardement qu'elle considère contre-productif en l'absence d'une stratégie à long terme. Par contre, elle a renforcé ses effectifs, ses contingents en Irak, également en Afghanistan. Alors globalement, l'Italie, bien, elle entend jouer sa propre carte au niveau international et européen. Les relations avec Bruxelles sont d'ailleurs très tendues en ce moment. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la mise en demeure adressée à l'Italie pour manquement dans l'identification des migrants, la question migratoire toujours très prégnante. L'Italie doit contre-argumenter sur cette mise en demeure avant le 11 février. Le souci, vous le savez peut-être, c'est que sur ces 6 centres d'identification des migrants, les hotspots, les fameux hotspots qui devraient tourner en Italie, eh bien un seul centre est effectivement opérationnel, celui de Lampedusa. Et le problème, c'est que la loi italienne interdit de forcer les migrants à se faire prendre leurs empreintes digitales. Faute de compréhension du dispositif européen, du coup, certains migrants préfèrent tenter leur chance et remonter vers le nord de l'Europe incognito. Et c'est ce qu'on reproche à l'Italie. L'Italie qui a sauvé des milliers de vies en mer, bien seule hein, pendant plusieurs mois. Elle accepte très mal aujourd'hui d'être critiquée pour une question de procédure. Ces critiques européennes sont qualifiées d'ailleurs de surréalistes par Matteo Renzi.
Du côté du Vatican, cette fois Mathilde, quel est l'état d'esprit à quelques jours de 2016.
Au Vatican, c'est une année sainte qui s'ouvre, l'année sainte ou année du jubilé de la miséricorde. Elle a été ouverte d'ailleurs par le pape François dès le 8 décembre dernier, puisque c'est le jour de l'Immaculée Conception pour les catholiques. C'est une année entière de célébration, une année de pardon. En franchissant la porte sainte, et comme le pape a voulu rendre accessible ce jubilé, il y a une porte sainte dans chaque diocèse du monde, en franchissant la porte sainte, eh bien le fidèle catholique peut demander le pardon pour ses péchés.
Et toujours au Vatican, 2016 sera aussi l'année du procès de deux journalistes, Mathilde.
Oui, alors ça c'est une première. La première fois que des journalistes sont poursuivis pour divulgation de documents confidentiels. C'est l'affaire Vatilix 2. Je vous la résume rapidement. Deux personnes membres d'une commission chargée de réfléchir à la réforme de l'économie du Vatican. Deux personnes sont soupçonnées d'avoir fait passer à des journalistes qui en ont fait des livres, des documents embarrassants pour le Vatican. Ces documents font état d'une gestion hasardeuse, le patrimoine immobilier, le personnel du Vatican qui ne serait pas précisément recensé, de l'argent récolté pour des organisations caritatives qui a été utilisé pour combler les déficits du Vatican. Donc toute une gestion assez peu conforme aux consignes du pape François d'une église pauvre pour les pauvres. Alors, concernant ce procès Vatilix II, bien les audiences ont été renvoyées au début de l'année 2016 et en théorie, les cinq personnes poursuivies, les corbeaux et les journalistes, risquent jusqu'à 8 ans de prison.
Bon, et le pape François, justement, dans tout cela, va-t-il tenir le coup?
Il semble jusqu'ici tout à fait vaillant. Il vient d'avoir 79 ans. Il rappelle volontiers le pape qu'il lui reste beaucoup de travail parce que sa priorité, eh bien, c'est de réformer les finances du Vatican. On l'a entendu, il y a un peu de travail. Sa priorité, c'est aussi de réformer la curie, de décentraliser l'église. Et puis, au premier semestre 2016, eh bien, le monde catholique attend de lui ce que l'on appelle les indications pastorales sur la famille. C'est la suite en fait du synode sur les familles qui s'est tenu en octobre, qui a abouti à des conclusions assez novatrices, notamment sur l'accueil dans l'église des divorcés remariés. Eh bien, le pape François doit condenser les 94 articles de conclusion du synode en une seule feuille de route pour toute l'église. Et puis, il va continuer à voyager, le pape François, même s'il concède être très casanier, ses voyages le nourrissent. Il est reçu avec une ferveur extraordinaire partout où il va. Donc, en février, il sera au Mexique, en particulier à Ciudad Juárez, cette zone de non-droit qualifiée de zone la plus violente au monde, juste en face des États-Unis. L'été prochain, il se rendra au JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie, en faisant une étape à Auschwitz. Entre-temps, il a très envie, le pape François, de se rendre auprès des chrétiens en grande souffrance, du côté de l'Irak, par exemple. Mais jusqu'ici, les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour qu'il s'y rende.
Et malheureusement, on le sait, ce n'est pas pour demain. Merci beaucoup, Mathilde Imberti, en direct de Rome.
Moteur.
Un jour dans le monde. Oh, Michael Thébault.
Oh, allons-y.
Sur France Inter.
Tchitchi.
Oh putain, moteur.
Et dès qu'elle entend moteur, c'est plus fort qu'elle. Elle déboule en studio. Bonsoir ma chère Eva Bétan. Alors vous avez choisi de nous parler ce soir d'un film chinois intitulé Au-delà des montagnes, de l'un des plus grands réalisateurs chinois, Jia Zhongke. Il est sorti cet après-midi en France. Histoire d'amour, Eva, dans une Chine en pleine mutation.
Ah oui, mais c'est un film romanesque, parce que au départ, il y a une jeune femme qui hésite entre deux amis et elle va choisir d'épouser le plus riche des deux. Et elle aura un enfant qui s'appellera Dollar. Dollar dans la Chine. Mais c'est une histoire d'amour dans la Chine telle que la filme Jia Zhongke. Il faut resituer Jia Zhongke, oui, un des plus grands réalisateurs chinois, un des plus grands réalisateurs mondiaux. Un jour, il aura la Palme d'Or. C'est pas forcément son but dans la vie, mais un jour, il l'aura. Il est en train de faire un travail à nul autre pareil. Il a commencé le cinéma il y a une vingtaine d'années et il raconte des histoires dans le réel en train de se transformer. Là, par exemple, cette histoire va se dérouler sur trois périodes. 1999, quelques années plus tard, et dans un futur proche, où Dollar a émigré en Australie, il parle quasiment plus le chinois. Et donc, vous allez voir, sa manière de travailler, c'est que sa fiction, elle va s'inscrire vraiment dans des images tournées à différentes époques. Et c'est pour ça que vous aurez des cas différents. Ce que fait cet homme-là est extraordinaire. Écoutez Jia Zhongke.
Quand je filme, j'ai toujours l'impression que je fais la course avec des choses qui sont en train de disparaître. Déjà en 1998, dans mon film Xiao, artisan pickpocket, je filmais des bâtiments en train d'être détruits. En 2006, avec Still Life, c'était une ville entière qui disparaissait. En 2008, dans 24 City, je filmais le passage d'une économie planifiée à une économie de marché et on se rendait compte des conséquences pour les ouvriers.
Quand je vois votre film et vos films précédents, vous montrez aussi dans ce film les liens qui se distendent, un monde qui est plus froid. Il y a une influence énorme sur les sentiments, sur les relations entre les gens. Et ça, c'est une chose souvent qu'on oublie quand on parle des grands changements. Vous montrez que ça a une influence très importante sur l'intime.
Oui, sur le plan des sentiments, la modification du système de valeurs a une influence sur les individus, avec aussi les nouvelles technologies. Pour moi, il y a deux périodes. C'est pourquoi mon film commence en 1999. C'est un tournant essentiel. Avant, il n'y avait pas Internet, pas de portable, pas de voiture particulière, pas d'autoroute. Quand tout cela est arrivé dans la vie des gens, ça a eu une influence radicale.
Votre film est sorti en Chine et j'ai cru comprendre que vous aviez eu certains problèmes. Pouvez-vous m'expliquer ?
Lorsque le film a été présenté à Cannes, certains médias ont écrit que c'était un film fait pour les étrangers, que j'utilisais le côté noir de la Chine pour mon bénéfice personnel. Je me suis rendu compte que j'étais face à un mouvement nationaliste qui s'intensifie en Chine. Il y a eu comme cela plusieurs mois de rumeurs, puisque le film ne sortait qu'en octobre en Chine. Ensuite, les choses se sont inversées. J'ai obtenu un soutien important de la part de spectateurs et de critiques. Je me suis beaucoup impliqué personnellement dans ce film qui parle de sentiments. Alors, subir les attaques de médias très extrémistes a été très douloureux.
Oui, un mot encore, le film était en compétition au dernier Festival de Cannes et c'est un film inter.
Et un jour, il aura peut-être la Palme d'Or. Donc,
et je reviendrai pour acter.
Merci beaucoup, Eva Bétan.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
18h55, l'heure de l'édito d'Arnaud Leparmentier du journal Le Monde. Bonsoir.
Bonsoir Mickaël.
Et mon cher Arnaud, vous avez choisi de terminer l'année sur un slogan qu'on ne comprend pas forcément, Wir schaffen das.
Oui, c'est de l'allemand, vous l'aurez deviné. Wir schaffen das, c'est le mot fétiche d'Angela Merkel qui veut dire « nous allons y arriver ». Angela Merkel le répète en boucle, persuadée qu'elle va arriver à faire face à la vague de migrants dans son pays. Alors nous aussi, comme Merkel, nous allons le répéter en boucle, Wir schaffen das, nous allons arriver à sauver l'Europe qui ne cesse de s'effondrer. Alors il faut voir que tout a changé, l'Europe était avant basée sur la confiance et sur le beau temps. On faisait du commerce, de l'intégration politique paisible protégée par l'OTAN. Tout cela a volé en éclats. L'Europe, ce n'est plus la confiance, c'est la défiance. On a peur des terroristes, des migrants, des tricheries budgétaires de ses voisins. Voici le retour de l'Europe barricadée.
Et en plus, problème, cette Europe coule.
Ben oui, alors, elle coule, mais plutôt que de colmater les brèches, il faut réfléchir à prendre un canot de sauvetage pour sauver l'essentiel. Nous avons gambergé avec Jean Pisani-Ferry, patron de France Stratégie et grand européen devant l'éternel, pour trouver des solutions. Alors, commençons par Schengen, Michael. Il semble inimaginable de recréer une nouvelle ligne Maginot pour se protéger des migrants ou des terroristes. Ce serait désastreux pour l'économie européenne, pour les travailleurs transfrontaliers. La seule solution raisonnable, c'est une coopération totale entre les services de police des États européens et des frontières extérieures fermées. Mais on n'y arrivera jamais. Avec des pays passoires comme la Grèce, des pays peu fiables comme la Hongrie qui s'empresseront de transmettre nos informations confidentielles à Moscou, la solution, on n'échappera pas à un mini Schengen entre pays amis. C'est la première révolution.
Bon, rassurez-nous tout de même, l'euro, lui, est sauvé.
Eh bien, à long terme, ce n'est malheureusement pas certain. Dans les think tanks, on ne s'inquiète plus d'une sortie de la Grèce si Tsipras ne fait pas ses réformes ou de la Finlande si elle juge qu'elle s'en sortira mieux en dévaluant. Non, la crainte est encore plus grave. C'est la crainte du bug d'un très gros pays comme l'Italie si la croissance ne repart pas. Attention, ne nous faisons pas leurrer par la jeunesse du Premier ministre italien Matteo Renzi. Son pays a une dette équivalente à 130% du PIB et des taux pour l'instant de 1,6%. Imaginez qu'il remonte, le pays mourra étouffé. Alors deux solutions, renflouer ses finances comme on l'a fait pour la Grèce. L'Allemagne ne le fera pas, la France ne le pourra pas. Ainsi revient dans les débats une vieille idée allemande, prévoir à froid la restructuration des dettes publiques. Attention Michael, c'est de la dynamite. Cette idée avait été explorée par Sarkozy et Merkel en 2011 à Deauville. Elle avait accéléré la crise de l'euro, mais on n'y coupera peut-être pas s'il faut sauver l'euro.
Bon alors vous êtes totalement déprimant. Heureusement, il nous reste le grand marché.
Non, je ne suis pas déprimant. Je vous propose des solutions, Michael. Alors le grand marché, là non plus, rien ne va plus. Vous croyez que ça va bien? Mais en réalité, il n'y a plus de marché unique des télécoms, des assurances, de l'énergie, du numérique. C'est un gruyère où les trous sont plus gros que le fromage. Les bonnes recettes d'antan, harmonisation généralisée via des directives et des normes sont caduques. Elles sont efficaces en réalité, mais les citoyens européens n'en veulent pas. C'est comme les Britanniques qui incarnent à merveille cette schizophrénie. Sans cesse, ils fustigent Bruxelles, mais ils réclament tous les jours plus de marché unique. La solution, c'est une espèce d'autorité de la concurrence hyper puissante qui chapeauterait les secteurs économiques comme on le fait avec l'union bancaire. Vous voyez, Michael, trois révolutions sur l'euro, sur Schengen, sur le marché unique pour sauver l'Europe. Voilà un beau programme de travail pour 2016. Wir schaffen das, comme dirait Merkel. On va y arriver.
Et on a le même accent. Arnaud Leparmentier, merci. Dans une vingtaine de minutes, le téléphone sonne sur la controversée déchéance de nationalité, finalement maintenue ce matin, malgré les critiques à gauche, malgré les annonces de la garde des Sceaux. Fermeté légitime de François Hollande après les attentats de Paris ou pure stratégie politicienne? Et que pensez-vous du principe même de déchéance? On en débat. Ce soir, j'attends dès maintenant vos questions, vos commentaires au 01 45 24 7000 et dans une poignée de secondes, le journal de 19h.